Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée par Marguerite Caton, Maïder Gérard, Léa Capoineau et Corentin Monsoy, réalisée par Benjamin Hu et à la technique, ce matin, Jacques Hubert. Comme chaque vendredi, table ronde d'actualité en partenariat avec le journal Le Monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Ce matin dans la table ronde, il sera question des attentats survenus dimanche dernier au Sri Lanka, des attaques ayant fait entre 250 et 350 morts. On apprend ce matin que le bilan humain pourrait être revu à la baisse, certaines victimes ayant été comptées plusieurs fois. Il s'agit néanmoins d'attaques extrêmement meurtrières, revendiquées par l'État islamique en lien avec un groupe djihadiste local, le NTJ. Alors Sri Lanka a une nouvelle stratégie asiatique pour l'État islamique. On en discute, on en débat dans une vingtaine de minutes avec nos invités. Gérard Chalian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géostratège, spécialiste de l'étude des conflits armés et des relations internationales et stratégiques. Vous êtes l'auteur de Terrorisme et politique. C'était paru aux éditions du CNRS en 2017. Et à vos côtés, Philippe Migaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à Sciences Po. On peut signaler deux ouvrages, notamment L'islamisme combattant en Asie du Sud-Est, publié par l'IRASEC. C'est l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine, c'était paru en 2007, et le djihadisme, le comprendre pour mieux le combattre, avec Farhad Khosrokavar et David Benichou aux éditions Plon en 2015. Mais d'abord, place au Retour 2, en partenariat avec l'association Prix Albert Londres, et la journaliste que nous recevons ce matin nous revient d'Algérie. Bonjour Rosa Moussaoui.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter pour l'Humanité, vous êtes rentrée il y a une semaine à peine d'Algérie, vous avez passé trois semaines environ, d'Alger à Oran, en passant par Béjaïa, Tizi Ouzou. Vous êtes allée à la rencontre de ces Algériens et Algériennes qui ont investi la rue depuis le 16 février, en réaction à l'annonce du président Abdelaziz Bouteflika de briguer un cinquième mandat. Alors où en sommes-nous aujourd'hui? Abdelaziz Bouteflika a démissionné le 2 avril, c'était l'une des demandes des manifestants, mais les Algériens restent mobilisés. Aujourd'hui c'est le dixième vendredi de manifestation. Quel est le mot d'ordre? Quel est le prochain objectif des manifestants?
Alors les manifestants le répètent, hein, ils ne veulent pas simplement changer de casting, ils veulent déraciner le système, ils veulent remettre complètement à plat à la fois le système institutionnel dont ils estiment qu'ils ne les représentent pas. Ils ne veulent pas d'un régime militaire. Aujourd'hui, on est dans une situation où le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaït Salah, se pose en homme fort du pays. C'est lui qui dirige le pays dans les fêtes. Et les Algériens ne veulent pas non plus de lui parce que il incarne ce système au même titre que l'incarnait Bouteflika et que l'incarne beaucoup d'autres figures du régime FLN.
Le journal El Watan, dans son édition de ce week-end, titre « Pas de demi-révolution ». Et vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est l'armée incarnée par Gaït Salah qui est dans le viseur des manifestants.
C'est vraiment un des nœuds du problème. L'armée algérienne, elle a toujours joué un rôle politique central, pas seulement un rôle d'arbitre depuis l'indépendance. Et ceux qui sont aujourd'hui dans la rue, toutes générations confondues, estiment que c'est mal parti. L'Algérie s'est trouvée sur de mauvais rails dès 62 avec la mainmise de l'armée sur le pouvoir politique. On voit des banderoles dans les manifestations avec ce mot d'ordre, primauté du politique sur le militaire. Je crois que les Algériens sont convaincus qu'on ne peut pas aller vers une démocratie authentique s'il n'y a pas séparation à la fois du politique et du militaire, et aussi séparation du politique et du religieux. Ça, c'est aussi quelque chose qui revient fortement avec l'expérience algérienne de la décennie noire. Donc il y a vraiment une volonté de créer un système institutionnel où l'armée serait dans les casernes et pas sur la scène politique.
Mais est-ce que la détermination est toujours au même niveau, est toujours la même depuis plus d'un mois? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le mouvement s'essouffle?
Il n'y a pas d'essoufflement pour l'instant. C'est un mouvement à la fois massif, ancré dans tout le territoire. Ça, c'est nouveau. Les précédents mouvements populaires en Algérie étaient quand même assez concentrés sur Alger. Là, il y a des manifestations tout à fait impressionnantes dans des villes de province, des villes moyennes comme Tiaret, Borj Bouarij, enfin des villes qui n'étaient pas forcément comme ça dans les luttes précédentes, dans les séquences précédentes. C'est un mouvement qui est ancré aussi très fortement dans l'histoire. On voit des jeunes jeunes gens de 20 ans brandir des figures de l'histoire révolutionnaire de l'Algérie, du combat d'indépendance qui avait été complètement effacé de l'historiographie officielle. Il y a une volonté de se réapproprier l'histoire du pays, de ce que ce peuple se réapproprie son destin. Il y a une présence féminine aussi tout à fait massive. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappée. Les femmes sont vraiment aux avant-postes de ces manifestations et les hommes tiennent à leur présence parce qu'elles sont vues, leur participation est vue un peu comme une garantie du caractère pacifique du mouvement et de son élargissement. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'essoufflement. Il y a eu un tournant répressif la semaine dernière, assez fort.
À Alger, notamment, dans la capitale.
En particulier à Alger, avec des arrestations de militants, de journalistes, avec des manifestations étudiantes réprimées par la police.
Quelles ont été les réactions des manifestants ? Parce que jusqu'à présent, les manifestants clament et revendiquent un mouvement de caractère pacifique. Du côté de la police ou du gouvernement, on commence à utiliser l'usage de la force, est-ce que ça ne pourrait pas enclencher un cycle de violence ?
Alors, ce mot d'ordre de pacifisme de Silmia, il est vraiment au centre du mouvement. C'est vraiment le cœur de cette mobilisation pour plusieurs raisons. D'abord, les Algériens ne veulent pas mettre en danger le pays. Ils ne veulent pas le voir plonger dans un chaos comme celui qui a gagné la Libye, la Syrie. Ils ont une expérience de la décennie noire avec des dizaines de milliers de morts et ils ne veulent pas replonger dans une guerre civile. Personne aujourd'hui en Algérie ne veut revivre cette expérience cauchemardesque. Et puis, il y a l'assurance que ce caractère pacifique du mouvement permet aussi son élargissement à des catégories qui n'y participeraient pas autrement. C'est vraiment ce qui explique son caractère très très large. La réponse des Algériens à ce tournant répressif, ça a été de dire on sera encore deux fois plus pacifique. Ils y répondent aussi par l'humour. On a vu par exemple des manifestants arriver dans les rues d'Alger en peignoir avec du shampoing, du gel douche, se mettre sous les canons à eau. Et finalement, ça n'a pas dissuadé aussi les Algériens de continuer de manifester. Au contraire, on a vu des adultes, des personnes âgées rejoindre les étudiants dans les manifestations en semaine après la répression. Et au fond, toutes les manipulations du pouvoir, toutes ces stratégies pour essayer de désunir les Algériens, pour essayer de désamorcer le mouvement, semblent se retourner contre lui jusqu'à présent. Cette détermination, elle est extrêmement forte. Les Algériens sentent que s'ils s'arrêtent là, en fait, ce qui va se passer, ça va être le scénario d'un cinquième mandat par procuration qui sera assuré par Gaït Salah. Et ça, ils n'en veulent véritablement pas.
D'où ce mot d'ordre, le système dégage après Bouteflika. Dégage. Rosa Moussaoui, dans vos articles, vous décrivez un immense appétit politique de la part des Algériens qui ont été privés de vie politique depuis de nombreuses années. Vous rencontrez par exemple Toufik Ben Souissi, c'est un sapeur-pompier de 31 ans, et lui, il se réjouit du retour des clivages. Il dit « Les couleurs politiques se fixent, ça commence à se polariser, des gens de gauche s'affirment. » On arrive dans le temps de la politisation de ce mouvement.
Alors, je crois que les Algériens n'ont jamais cessé de faire de la politique. C'est un peuple extrêmement politisé depuis longtemps. Il y a un courant égalitaire très puissant en Algérie, un courant d'aspiration à la justice sociale, à la démocratie qui est très ancien, qui a continué d'exister sous forme de ruisseaux souterrains, qui est probablement lié aussi à l'histoire de la résistance à la colonisation. Et on le voit rejaillir très fortement aujourd'hui. La vie politique en Algérie, elle s'était polarisée aussi ces dernières décennies autour du clivage islamiste laïque. Et ce qu'on est en train de voir là, c'est un surgissement à nouveau du clivage gauche-droite. On discute du projet de société qu'on a envie de voir s'épanouir. Les gens se retrouvent dans les rues sous forme d'agora un peu spontanée. Ce qui est nouveau, ce n'est pas le fait que les Algériens fassent de la politique. Ils en ont toujours fait dans des cercles amicaux, familiaux. La presse aussi est très très ouverte au débat politique. Elle est restée ces dernières années. Mais par contre, il y a une réappropriation de l'espace public après 20 ans de cette ère Bouteflika où tout a été fait pour casser toutes les formes d'organisation de la société, pour faire taire la société civile, pour l'exclure de l'espace public. Et là, c'est cette reconquête de l'espace public qui se fait sous des formes très très différentes. On voit des jeunes gens, par exemple, s'approprier les murs des villes, les repeindre, y inscrire leurs revendications, leurs slogans, leurs aspirations. Il y a une volonté très très forte de s'exprimer de toutes les manières possibles. Et tout ça se fait aussi vraiment très joyeusement. Il y a beaucoup de joie dans ce mouvement. Fanon disait de la lutte qu'elle donnait lieu à une fête de l'imaginaire. Eh bien, il y a quelque chose un peu comme ça qui est en train de se produire en Algérie.
Vous parlez de la réappropriation de l'espace public et vous l'avez évoqué, cette réappropriation, elle se fait par les femmes massivement. Les femmes qui demandent notamment l'abrogation du code de la famille qui avait été instauré dans les années 80, je crois, et qui fait des femmes plus ou moins des mineures à vie. Est-ce que dans ce mouvement révolutionnaire, si on peut le qualifier ainsi, est-ce que les femmes ont un espace pour exprimer des revendications spécifiques et est-ce qu'elles sont entendues ?
Elles le font et cette lutte contre le code de la famille qui fait effectivement des femmes des mineures à vie, passant de l'autorité du père à celle du mari, la contestation de cette législation-là, elle est très ancienne, elle date déjà du début des années 80 de son adoption. Donc cette revendication-là, elle continue de s'exprimer. On voit des femmes dans les manifestations brandir des pancartes spécifiques sur la question des droits des femmes. Il y a l'idée que le mépris la sous-citoyenneté dans laquelle sont tenues les femmes.
La hogra.
C'est la première des hogra, c'est celle que subissent les femmes algériennes. Donc c'est vraiment, les Algériens sont convaincus qu'on ne peut pas aller vers le respect des citoyens, l'égalité des droits, si les femmes restent dans ce statut de sous-citoyennes. Après, ce qui est en train de se produire en Algérie, c'est aussi le fruit de toutes les mutations qu'a connues cette société ces dernières années. Il faut savoir que les femmes représentent aujourd'hui 66% des diplômés du supérieur. Elles ont investi massivement le marché du travail. Elles ont gagné une très forte autonomie ces dernières années. Et évidemment, tout ça se cristallise aussi dans ce mouvement politique. Mais elles ont vraiment l'intention de s'imposer comme des actrices politiques à part entière.
Oui, pas de démocratie sans droit des femmes, c'est un des slogans aussi qu'on peut lire sur les pancartes dans les manifestations. Et pourtant, voilà, vous l'avez dit, les femmes prennent de plus en plus... Il y a une transformation profonde de la société, mais la place des femmes dans l'espace public ces dernières années en Algérie, il restait quand même problématique.
Alors là, il faut remonter aussi, je crois, un peu loin dans l'histoire du pays. Les femmes algériennes ont pris part au combat d'indépendance et... En 1962, le FLN leur a demandé de retourner à leur cuisine. Ça a été dit de la part de dirigeants du FLN dans ces termes-là. Elles se sont senties flouées, mises à l'écart. Et aujourd'hui, elles veulent se réapproprier leurs droits, réinvestir l'espace public. Et cette profondeur historique, on la voit aussi avec la participation de figures de la lutte d'indépendance, comme Jamila Bouhered, qu'on a vu dans les manifestations, aux côtés des plus jeunes, aux côtés des étudiants. Et il y a vraiment l'idée de réparer quelque chose qui aurait dû être fait dès 62. L'égalité des droits, elle était revendiquée par ces femmes combattantes. Et aujourd'hui encore, les plus jeunes s'inscrivent dans l'affiliation de ce combat-là.
Rosa Moussaoui, ces derniers jours, la justice a ouvert plusieurs enquêtes pour corruption. De nombreux hommes d'affaires ont été arrêtés. Le PDG de la Sonatrach, par exemple, les frères Kouninef, Ali Haddad, à la tête d'une importante entreprise de travaux publics. Comment les Algériens ont réagi à ces opérations présentées comme des opérations main propre par le pouvoir? Est-ce qu'ils y ont vu le signe que l'une de leurs demandes, c'est-à-dire de lutter contre la mafia corrompue en lien avec le pouvoir, était entendu, ou bien est-ce qu'ils ont l'impression que le pouvoir cherche à faire diversion en procédant à plusieurs arrestations de quelques personnalités?
Alors Bouteflika, quand il est arrivé au pouvoir, il avait assez peu d'appui à l'intérieur du système. Et il a, disons, créé les conditions de faire émerger une classe d'affairistes gavés au marché public, en fait, et avec des possibilités de corruption qu'offraient les grands chantiers d'infrastructures qu'il a engagés. Toutes ces personnalités, Ali Haddad qui dirigeait le forum des chefs d'entreprise, le MEDEF, l'équivalent du MEDEF, ces personnalités étaient détestées. Donc évidemment, les gens se réjouissent de les voir aujourd'hui mis en examen, voire incarcérés. En même temps, les Algériens ne sont pas dupes. Ils voient bien que on fait sauter quelques fusibles, quelques oligarques un peu emblématiques, et en même temps, toutes les figures politiques du FLN, dont on sait qu'elles sont corrompues, dont on sait qu'elles ont touché des pourcentages sur des grands chantiers comme celui de l'autoroute Est-Ouest, ces figures-là courent toujours et ne sont pas du tout inquiétées, en tout cas pour l'instant. Il y a aussi l'idée que la pierre angulaire d'une démocratie, c'est une justice indépendante. Et aujourd'hui, ça n'existe pas en Algérie. Tous les dossiers dont se saisit aujourd'hui la justice, ils ont été...
C'est sur ordre du pouvoir. C'est pas la justice de qui elle-même a ouvert ses enquêtes.
La semaine dernière, a prononcé un discours en disant, voilà, la justice doit se saisir de telle et telle et telle affaire de corruption. Et en même temps, on voit bien que des personnalités qui restent proches de lui, proches des cercles du pouvoir, ne sont pas inquiétées à ce jour. Il y a le sentiment qu'il y a vraiment des règlements de compte politiques aussi qui se jouent derrière ces arrestations. Donc voilà, la revendication d'une justice indépendante, elle est vraiment au cœur aussi des revendications des manifestants.
Rosa Moussaoui, vous vous êtes rendue également à Tizi Ouzou, en Kabylie, où le souvenir de ce qu'on a appelé le printemps noir est encore très prégnant dans les mémoires. Le printemps noir, c'était en 2001, une révolte qui avait été violemment réprimée après l'assassinat d'un lycéen par un gendarme, 128 morts, 5000 blessés. Aujourd'hui, les Kabyles sont particulièrement mobilisés dans cette contestation contre le pouvoir. Est-ce qu'ils participent d'un seul homme, d'un seul peuple, du même mouvement, ou est-ce qu'ils ont aussi leurs revendications spécifiques?
Alors la Kabylie, elle a été ces dernières décennies un des épicentres des luttes. Il s'est passé énormément de choses dans ce pays. Le printemps noir de 2001 en fait partie. Ça a créé de la division. Cette répression sanglante, elle a été suivie par une sorte de mise au ban de cette région. Il y a très peu de services publics. C'est une région à l'abandon. Qui a été désigné par le pouvoir comme une région un peu à part du pays. Ce pouvoir-là a joué énormément des divisions, du régionalisme, etc. Aujourd'hui, on voit le drapeau amazigh, le drapeau berbère, flotter sur les manifestations partout dans le pays, dans l'ouest, dans le sud, à Alger. On le voit presque autant que la bannière nationale. Et je crois qu'il y a des fractures qui sont en train de se réduire. Et les Kabyles prennent part, comme tout le reste du pays, à ce mouvement populaire. Il faut dire aussi que la mémoire des victimes du printemps noir, mais comme la mémoire de la répression du printemps berbère de 80, est aujourd'hui prise en charge par l'ensemble du pays. On a vu, par exemple, des pancartes à Oran rendant hommage, en fait, à ces 128 morts du printemps noir. Et il y a l'idée aussi qu'il va falloir que ceux qui sont responsables de ce massacre-là rendent un jour aussi des comptes sur ces sujets.
Le ramadan commence le 5 mai ou le 6 mai, la date n'est pas encore fixée. Est-ce qu'il faut s'attendre à une baisse en intensité des manifestations, ou est-ce qu'au contraire on va voir peut-être des réorganisations avec peut-être des manifestations de nuit?
Alors il y a des nouvelles formes de lutte qui sont en train de se réfléchir, et effectivement le pouvoir joue la montre en se disant les choses vont se calmer pendant le ramadan, les Algériens auront d'autres préoccupations, mais en fait pas du tout. Effectivement, les gens réfléchissent à des manifestations de nuit après la rupture du jeûne. Il y a aussi des formes de désobéissance civile qui sont en train de se mettre en place. Un certain nombre de maires, par exemple, ont annoncé qu'ils n'avaient pas du tout l'intention d'organiser le scrutin du 4 juillet parce qu'ils estiment que les conditions ne sont pas du tout réunies pour la tenue d'un scrutin libre et transparent. Voilà, il y a différentes formes de lutte en dehors de ces marches du vendredi et des marches en semaine qui sont en train de se réfléchir.
Vos discours sont si faux. Ouais, c'est... par s'y faire. Mais c'est fini, le verre est plein. En bas écrit, entends-tu leur voix, la voix de ses familles.
Entends-tu leur voix? Liberté, la chanson du rappeur algérien Soul King que vous connaissez sûrement, Rosa Moussaoui.
On l'entend partout, dans les rues d'Alger, d'Oran, de Béjaïa, les gens la fredonnent. Effectivement, elle rythme un petit peu ce mouvement populaire.
C'est en train de devenir l'hymne de la révolution, en quelque sorte.
Il y a plusieurs hymnes, on entend aussi beaucoup, par exemple, des chansons de Matou Blounès, qui a été assassiné il y a 20 ans.
Merci infiniment, Rosa Moussaoui, d'être venue pour ce retour d'Algérie dans l'émission Culture Monde. Vous repartez bientôt ?
J'espère repartir le plus vite possible.
Merci infiniment. Et vos reportages, vos articles sont à lire, eh bien, sur l'Humanité.
Merci.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandre.
Et tout de suite, direction le Sri Lanka. Le Sri Lanka victime de plusieurs attaques dimanche dernier.
Nous sommes amenés à penser qu'il y a des liens avec l'étranger. Certains éléments de preuve le montrent. Donc si l'État islamique l'a revendiqué, nous donnerons suite à cette revendication. Il y avait des suspicions sur la possibilité que l'État islamique soit en lien avec ces attaques.
Voilà, réaction du Premier ministre sri-lankais Ranil Wickremesinghe. C'était mardi 23 mai, quelques jours après les attaques perpétrées dans 3 églises et 3 hôtels de luxe au Sri Lanka. Le bilan, qui s'élevait jusqu'à présent à 359 morts, pourrait être revu à la baisse selon les dernières informations. Il n'en s'agit pas moins d'une attaque extrêmement meurtrière qui a surpris par sa violence et la précision de son exécution. Des attentats revendiqués par l'État islamique en lien avec un groupe djihadiste local, le NTJ, qui lui aurait fait allégeance. Alors pourquoi le Sri Lanka, où les communautés chrétiennes et musulmanes, toutes deux minoritaires, vivent en paix dans ce pays? Le groupe État islamique, affaibli par ses défaites et la perte de son territoire en Irak et en Syrie, est-il réellement responsable de ces attaques? Enfin, l'Asie du Sud-Est pourrait-elle devenir la nouvelle base arrière des réseaux djihadistes internationaux? Eh bien, on en discute avec Gérard Chalian et Philippe Migaud. Et on commence avec vous, Marc Semo. L'État islamique, je l'ai dit, a revendiqué l'attaque. Et pourtant, à ce stade de l'enquête, toutes les hypothèses sont encore ouvertes, pas de certitude sur la ou les responsabilités de cet attentat.
Non, mais ce dont on est sûr, c'est la matrice islamiste. Et alors, par leur ampleur, par leur organisation, par la simultanéité des attaques, ces attentats sanglants rappellent de fait les actions les plus spectaculaires d'Al-Qaïda. Et c'est aussi vrai dans le profil des djihadistes, des kamikazes qui les ont commis. C'est-à-dire, on retrouve, par exemple, même le chef de ce groupe, Zahran Hashim, de ce groupe NTJ, est lui-même fils de classe moyenne, d'un riche commerçant en épices. Et à peu près tous ceux qu'on a pu identifier ont plus ou moins le même profil. Ce qui est un profil sensiblement différent de ceux qui, par exemple, ont commis en Occident les actions de l'État islamique. Alors que cette revendication soit fondée ou non, ce qui est important, c'est de voir que il y a un effet d'opportunité. C'est-à-dire, le Sri Lanka n'était pas du tout préparé par rapport au terrorisme islamiste, d'où le fait que les avertissements étaient restés plus ou moins lettre morte. Bon, il y a eu des vagues mesures qui ont été prises qui n'ont pas eu beaucoup d'effet. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que justement, au nom de ces effets d'opportunité, il y a un risque réel que le djihadisme radical se réimplante en Asie du Sud-Est. Alors c'est vrai en Asie du Sud-Est, mais c'est aussi vrai en Afghanistan, où aujourd'hui on voit que des groupes qui ont fait allégeance à l'État islamique sont en rivalité avec les talibans.
Alors on commence sur cette question de la responsabilité de l'attentat. Vous, Philippe Migaud, vous doutez que l'État islamique puisse être vraiment le responsable? Il s'agirait donc d'une récupération en quelque sorte?
Je n'ai pas de certitude et j'attends des éléments de preuve. Et je crois que suivre l'enquête judiciaire sera la meilleure solution. L'État islamique nous habituait au départ à faire ce qu'elle disait. Et puis il y a eu Nice, 86 morts, des Français, des étrangers, le jour de la fête nationale. Ils ne pouvaient pas ne pas récupérer l'événement alors qu'ils n'avaient aucun lien avec Mohamed Lawed Jouel. Il y a eu Las Vegas, il y a eu ce genre de choses. Ils en sont réduits aujourd'hui en termes de propagande à revendiquer une attaque au Congo avec 3 individus. L'État islamique au Congo, c'est pas vraiment un danger pour nous. Donc, moi, je me demande si c'est pas une récupération. Ensuite, je regarde les photos dans les vidéos. On a 6 types qui sont tenus musulmanes sri-lankaises, entourés d'un individu à visage découvert. Est-ce qu'il y a des anciens de Daesh? Je n'ai pas souvenir, moi, qu'il y ait eu des Sri-Lankais musulmans dans les rangs des volontaires étrangers.
Alors, d'après ce que j'ai pu lire, il y aurait eu entre 30 et 50 Sri Lankais signalés dans les rangs de Daesh.
Jamais en unité constituée et toujours avec d'autres personnes. Ce n'est pas pour vous critiquer en disant ça, je l'ignorais, parce que ça n'avait attiré l'attention de personne. La deuxième question, c'est, est-ce que, d'abord, si c'est lui, est-ce que ce sont des lions du califat ou des soldats du califat? C'est-à-dire, les lions du califat ont été-ils formés et préparés à faire cette mission en Syrie ou Irak? Si c'est les soldats du califat, c'est des gars qui ont regardé les réseaux sociaux pendant quelques années et ont dit, je veux faire partie du club. Si ce n'est pas Daesh, ça veut dire que c'est, et c'est ce que nous explique un peu la presse indienne suite aux révélations, c'est un mouvement radical qui monte en puissance à cause de Christchurch. C'est possible. Il y a des liens entre...
Alors, rappelons juste, Christchurch, donc ce sont les attentats qui sont survenus en Nouvelle-Zélande contre des mosquées qui ont fait une cinquantaine de morts, c'était il y a un mois et demi à peu près.
Donc, on a aussi une montée de la radicalisation qui ne peut s'engager dans une action armée sans penser être un mouvement terroriste. Le National Jawid Jamaat, le NTJ, est un mouvement qui était complètement inconnu, mais dont le chef, il y a 3 ans, avait fait des commentaires très agréables sur les chrétiens et qui récemment avait été victime d'opérations de répression de la part des bouddhistes Sri Lankais qui avaient attaqué des mosquées qui étaient proches de ces radicaux. Mais alors si c'est ces gens qui décident soudain de venger les martyrs des 50 mosquées, en tuant des enfants aussi et en tuant des femmes, où est-ce qu'ils ont été formés aux attentats? Parce que là, on est sur le plus bel attentat de piétons jamais réalisé depuis le départ de la mouvance djihadiste. 230 morts, 10 sacs à dos, 8 sacs à dos, 7 explosent. Vous regardez les caméras de surveillance qui filment des gens en train d'arriver en église, ils ont 15 à 20 kilos d'explosifs sur le dos. Et ça marche. Est-ce que c'est à l'artificier Daesh, il n'avait pas la capacité de former des artificiers de ce niveau quand il formait des cadres étrangers? Moi, je verrais une possibilité, un artificier de l'armée qui est revenu et qui a donné une compétence.
En tout cas, c'est bien ce qui pose question, parce que le groupe djihadiste local au Sri Lanka, c'était un, de ce qu'on peut lire, c'est que pour l'instant, c'était quand même un groupe très local, un groupe
familial.
Qui apparemment n'aurait pas les moyens logistiques, humains, matériels d'organiser une attaque avec de cette ampleur et avec autant de précision. Gérard Chalian, qu'est-ce qu'on sait d'un éventuel lien d'allégeance entre ce groupe local Sri Lankais et l'État islamique?
Très peu de choses, pour être honnête. Bon, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que le Sri Lanka est un théâtre totalement mineur en ce qui concerne le problème musulman, d'une façon générale, et le problème islamiste en particulier. C'est-à-dire que je ne suis pas étonné qu'ils aient été surpris. Au Sri Lanka, je parle des autorités, dans la mesure où pendant 30 ans, le problème principal, ça a été celui des Tamouls, dans les années 80,
oui,
90,
le Sri Lanka sort d'une guerre civile qui a duré 30 ans et qui s'est terminée il y a 10 ans, en 2009.
Oui, ça s'est terminé en 2009 et de façon, comment dirais-je, extrêmement brutale, et avec une carence complète de l'Organisation des Nations Unies qui, en 2012, a dit l'organisation a été en dessous des réalités. Ça a été, en somme, une sorte d'immémorium sur lequel on n'est jamais revenu, le problème tamoul n'étant d'ailleurs pas réglé depuis. Donc, je suis pas étonné qu'ils aient été surpris. C'est une... quels que soient ceux qui ont frappé... ils étaient certains, en tout cas, que on va en parler dans la mesure où c'est totalement inattendu.
Marc Semo.
Oui, totalement inattendu, en plus le jour a été choisi avec soin, parce que le jour de Pâques, c'est évident d'avoir une résonance. Alors, je voudrais poser une double question. D'abord, il y a quand même une tradition très forte au Sri Lanka des attentats suicides. C'est même eux qui, quelque part, les ont inventés avec les tigres noirs à l'époque, pendant la guerre avec les Tamouls. Et deuxièmement, est-ce qu'on n'est pas plus, par ailleurs, en train de voir, aujourd'hui, un peu ce qui s'était passé après l'invasion de l'Afghanistan, quand Al-Qaïda chassait de son ancrage territorial afghan, a commencé à essaimer partout avec une nébuleuse, des franchisés. Et est-ce qu'on n'est pas en train de voir ça, finalement, avec l'État islamique?
Philippe Migaud.
On l'a vu déjà il y a 4 ans. L'État islamique, quand les Français, avec la coalition, ont commencé à bombarder, ont compris que leur stratégie de califat territorial allait échouer. Ils ont donc créé, comme Al-Qaïda, préparer leur entrée dans la clandestinité pour l'organisation, un deuxième cercle Al-Qaïda s'appelle les organisations régionales, ACMI, ACPA, etc. Ils ont après ça des wilayats, des provinces, Khorasan en Afghanistan, Sinaï au Sinaï, l'Islamisme islamique du Grand Sahara au Sahara, Caucasus au Caucase, et ils ont compté sur eux pour propager le mouvement. Et puis surtout, ils ont fait par leur propagande un appel aux loups solitaires, aux volontaires de ne plus venir chez eux, mais au contraire d'aller dans les autres provinces pour les renforcer, ou de frapper l'ennemi de l'intérieur pour fracturer l'adversaire. Leur discours étant, on a perdu les villes, d'accord, on revient à la clandestinité de 2003 à 2009, départ des Américains, vous allez voir, par la suite on va revenir, en attendant, faites les payer autant que possible. Donc ça, c'est une stratégie qui est déjà prévue. Mais c'est une stratégie régionale dans laquelle on a en Asie, on le sait, deux pôles. Khorasan qui va du Pakistan, du Bangladesh jusqu'en Afghanistan. Et on a un autre mouvement qui est entre l'Indonésie et les Philippines, qui a occupé la ville de Marawi il y a 6 mois l'année dernière, etc. Qui est le Jamaa Daulah Islamiyah Nusantara. C'est loin du Sri Lanka. Il n'y a rien en Inde.
Alors, je reviens un instant sur l'État islamique, Gérard Chalian. Le 29 janvier, dans un rapport remis au Sénat, le directeur des renseignements américains, Dan Coats, a dit « Il ne faut pas sous-estimer la menace que continue de représenter Daesh, bien que privé de son territoire. » Est-ce que, d'une certaine manière, le fait que l'État islamique ait perdu son califat ne le rend pas encore plus dangereux, car de fait, la seule chose qui lui reste pour exister et pour nuire, et ben c'est ce pouvoir meurtrier, justement.
Non, franchement, non. Je veux dire, tout ça, quoi, il ne faut quand même pas vendre sans arrêt de l'angoisse. Hein. Quand ils étaient territorialisés, alors c'était extraordinaire. Maintenant qu'ils ont perdu militairement, parce qu'ils ont perdu militairement, ils sont devenus plus dangereux. Bon, mettez-vous à leur place. À un moment, ça marche très bien pour vous. De 2014 à 2017, fantastique. Ça marche extraordinairement, il y a plusieurs dizaines de milliers de types qui viennent vous renforcer, la victoire est au bout du fusil, c'est extraordinaire. Bon, ils ont été vaincus, alors qu'est-ce qu'on fait quand on est vaincu? Bon, on se disperse et on essaye de mettre le bordel un peu partout. Comme ça, je signale que j'existe.
Oui, c'est ce
alors
que je
on
disais.
On fait ça aux Philippines, c'est... avec Marawi, on fait un coup... Peut-être que ça, c'est eux, peut-être que c'est pas eux, mais en tout cas, ça leur sert puisque je le revendique, là, au Sri Lanka. Et puis, je me distingue à gauche et à droite. Mais enfin, moi, si vous voulez, organisation, pour moi, c'est un recul. J'essaye de relancer mes billes à gauche et à droite en me disant où est-ce que je vais pouvoir peser le plus, inquiéter le plus. Quant aux Américains, ils n'ont pas cessé de vendre de l'angoisse depuis 2001. C'était pire que jamais. Maintenant qu'ils sont, comment dirais-je, dans le recul, on dit, attention, c'est pire. Bon, voilà, il faut quand même conserver, si vous voulez, un peu de calme avec tout ça. Bon, ça fait des victimes. Dommage pour les gens qui sont morts, dommage pour leurs familles. Enfin, il n'y a pas de quoi dramatiser. Le terrorisme de ce type-là...
C'est quand même l'une des attaques les plus meurtrières, même si bilan est en train d'être vu un peu à la baisse,
on a eu plus de ces dernières années quand même.
Hein.
Que ça, en 2001, et ça n'a pas empêché les États-Unis de continuer à perdurer. Donc, il ne faut pas non plus, comment dirais-je, d'un seul coup se dire que ça devient terrible. Ils sont effectivement extrêmement nuisibles. Une nuisance considérable. Il ne modifie pas le statu quo mondial. Si on parle de choses sérieuses, aujourd'hui, l'adversaire sérieux, ça s'appelle la Chine.
Oui, si l'on comprend bien, c'est-à-dire une capacité de nuisance meurtrière qui est encore là, mais dont on ne doit pas déduire un maintien de la puissance de l'État islamique, si on comprend bien. Philippe Migaud.
Oui, je suis tout à fait de l'avis de Gérard. Il faut prendre la distance. Si on voit quel est le résultat de la chute de Barouz en Syrie il y a maintenant 15 jours, c'est quoi? La première chose, c'est que pour Al-Qaïda, c'est la meilleure nouvelle, parce que Al-Qaïda est résilient. Sur la vague d'attentats perpétrés en Europe depuis 6 ans, il y en a deux qui sont des attentats d'Al-Qaïda, c'est les frères Kouachi contre Charlie Hebdo, c'est un attentat à Saint-Pétersbourg fait par un militant ouzbek. Al-Qaïda a le soutien de la totalité des théologiens djihadistes radicaux.
Donc il a une capacité de maintien. Et sa meilleure nouvelle, c'est que l'autre soit à son niveau, donc plus faible. La deuxième chose, c'est qu'Al-Qaïda, c'est plus grand-chose aujourd'hui. Al-Qaïda centrale, c'est Ayman al-Zawahiri et quelques petits émirs bangladeshi ou pakistanais. C'est plus la grande époque des Saoudiens, des Koweïtiens, de tous les gens qu'on a connus avant. C'est pour ça qu'ils font monter Hamza Ben Laden, qui n'a aucune légitimité. Pour l'État islamique, on détruit. L'État islamique a pris une raclée phénoménale. Il nous annonçait quand même que 80% de sa propagande, c'était dire « Regardez le bonheur qu'on amène dans le nouveau califat. Bah, » aujourd'hui, il ne peut pas le montrer, toutes les villes sont par terre. Il nous annonçait qu'ils allaient nous faire mourir, et on est encore vivants. Mais pour le califat, on détruit une organisation avec des bombes et des balles, on ne détruit pas une idéologie avec des bombes et des balles. Donc elle va le perdurer. Et pour perdurer, c'est la capacité de sa propagande à exister, et la fidélité de ces organisations, de ces provinces extérieures. Moi, je crois que les provinces extérieures, elles sont venues quand elles ont fait silence d'Al-Qaïda pour aller voir l'État islamique. Elles sont venues pour un modèle vainqueur. Et qu'aujourd'hui, que le modèle est à terre, elles vont repartir à leurs agendas locaux et à leurs agendas et à leur révolution locale plutôt que frapper sur les Occidentaux. Moi, j'en suis un peu persuadé. Et enfin, je termine juste là-dessus. Regardez qui sont les gens, les soldats du califat qui ont tapé depuis 3 ans en France. Ce sont tous des individus qui sont complètement paumés, qui sont des voyous ou des irréguliers, qui à un moment donné décident que c'est la fin du voyage parce qu'il s'est passé le matin même un événement qui transforme leur vie. Et là, ils mettent le pari pascalien. Shérif Chokat, s'il n'a pas une perquisition de la gendarmerie où il va prendre 30 ans de prison parce qu'on découvre un projet, il ne va pas tuer les gens, il continue à être un voyou.
Marc Semo.
Oui, mais justement, dans le cas du Sri Lanka, c'est un des profils complètement différents.
Complètement.
Mais alors, est-ce que la question, ce n'est pas finalement que par rapport à ce genre d'action, alors pas tellement le Sri Lanka où, bon, effectivement, il n'y avait aucune mesure de protection qui a été prise, mais même en Occident, par rapport à ce que vous disiez sur le défi djihadiste, qu'il faut apprendre à vivre avec le terrorisme. Parce que n'importe comment, par rapport à un terrorisme résiduel d'action de ce genre, on ne peut rien faire.
Si vous me permettez, parce que vous citez ce livre, le livre que j'avais écrit justement en 2007, où Gérard a participé, est intéressant sur ce point-là, parce qu'on n'a pas revu la situation avant. C'est à un moment donné où des mouvements radicaux vont passer à l'action terroriste en ne se prenant pas pour des émanations d'Al-Qaïda ou de Daesh. C'est-à-dire que la cocotte minute explose et ils font le passage à l'action terroriste. En Indonésie, c'était extrêmement clair. Mais dès qu'ils étaient soupçonnés d'être des complices d'Al-Qaïda ou de Daesh, ils se reculaient parce qu'ils ne voulaient pas la répression américaine. C'est le cas d'Al-Jama Islamia, qui était un mouvement qui voulait une radicalisation, y compris par l'action armée, en Asie du Sud-Est, mais pour qui les gens qui ont fait l'attentat de Bali étaient trop proches d'Al-Qaïda et qui a amorcé un repli. La mouvance radicale et terroriste islamiste, c'est quelque chose de très complexe, de très nuancé, autrement que Al-Qaïda d'un côté, Daesh de l'autre.
C'est ce qu'on essaye justement de comprendre avec vous. Il faut rappeler, alors, si on parle un peu de la région Asie du Sud-Est, il y a eu des attentats aussi en Philippines, envers la cathédrale de Jolo, 20 morts. Également en Indonésie, en mai 2018, 13 morts. Alors, les deux ont été revendiqués par Daesh. Alors, peut-être que les mêmes questions se posent sur les stratégies de revendication. Mais globalement, sur la région, est-ce qu'on peut dire qu'on a peut-être sous-estimé l'observation, la détection d'une menace latente terroriste en Asie du Sud-Est.
Gérard Chalian. Sous-estimé, on s'en est occupé d'ailleurs dans le passé. À un moment, on a suivi de très près ce qui se passait aux Philippines, qui restera un théâtre, sans être un théâtre essentiel dans la mesure où les musulmans, là, Moro, sont une minorité à Mindanao, et que les Philippines sont un pays essentiellement catholique. Deuxièmement, ça a été suivi de près en Indonésie, où ils ont été largement écrasés, et comme on n'écrase jamais tout à fait, il y a encore une résurgence, mais enfin pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est en Indonésie que l'islamisme progresse. Par contre, on est moins attentif sur les lames de fond. Or, les lames de fond, c'est très important. Bon, le Bangladesh, par exemple, dont on parle très peu, il y a un développement de l'islamisme qui travaille et qui peut d'un seul coup exploser. Et d'un seul coup, on va se rendre compte qu'il y a 250 millions de personnes au Bangladesh et que ça pose un problème sérieux. Bon, autrement, pour l'instant, si vous voulez, les zones vraiment importantes, bon, ça reste en somme... La frontière pakistanaise et l'Afghanistan, non pas à cause des talibans, mais à cause effectivement, alors là cette fois, de l'État islamique qui s'y est implanté. C'est intéressant de signaler par exemple qu'un type comme Monsieur Poutine a appuyé les talibans parce qu'il estime que ce sont des locaux, de façon à ce que ceux-ci luttent contre l'État islamique qui, eux, sont des internationalistes. Bon, voilà des choses qu'on aimerait entendre de temps en temps.
Et quels sont les liens? Vous nous l'avez rappelé, Philippe Migaud, c'est on peut pas dire d'un côté Al-Qaïda, de l'autre côté tel groupe. Alors, justement, pour comprendre entre la frontière afghano-pakistanaise, le Bangladesh, l'Indonésie, les Philippines, est-ce qu'on a les moyens de comprendre les liens qui se tissent entre différents groupes? Je rappelle juste, à un moment donné, Al-Qaïda avait considéré l'Asie du Sud-Est comme un vivier de recrutement, d'une certaine manière, de combattants.
N'allons pas si loin que ça, une fois de plus. Je reviens bien sur une de vos remarques pour dire que les Américains jouent au vendeur d'angoisse. Les journalistes, malheureusement, passent leur temps à chaque fois à rappeler qu'il y a un événement qu'a fait la police ou qu'a fait les avancements, n'a-t-on pas commis une fausse? Ben non. Parce que le terrorisme est partout, et l'avantage du terrorisme, c'est de frapper là où il n'y a pas l'action des services de police renseignement. C'est de frapper à la faille. On a 130 morts le 13 novembre 2015. Les services de renseignement sécuritaire français n'ont pas un seul renseignement du monde entier sur ce qu'il va se passer. Sans renseignement, vous n'agissez pas. Donc, essayons de prendre de la distance et de se dire qu'est-ce qu'ils ont vraiment comme capacité. Vous avez, dans ces alliances de mouvements, deux racines. La première racine, c'est les alliances entre les groupes sont des alliances entre des hommes qui se sont connus à l'occasion d'un entraînement, d'une opération commune, d'un lien familial.
D'un emprisonnement.
Le deuxième facteur, c'est leur capacité à évoluer. C'est-à-dire que leur capacité à trouver les failles de l'adversaire. Quand la Jamaa Islamia se rend compte que Bali a sauté avec 200 infidèles, parce que ce sont essentiellement des gens qui font du surf, on a 4 Français à l'intérieur, ils sont contents. Quand ils se rendent compte que les Américains vont leur casser la figure, ils ne sont pas du tout contents. Donc ils jettent les auteurs, ils font une purge à l'intérieur du mouvement. Ça n'empêche pas le chef du mouvement de repartir à l'attaque sur un mouvement régional, et de faire des actions terroristes en plus tard où ils prennent une peine de prison à perpétuité. Ces gens-là ont une vision beaucoup plus complexe de leurs évolutions qu'on l'imagine.
On est avec vous, Gérard Chalian, Philippe Migaud, 11h42, place à notre partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs du monde entier. Quand le dessin éclaire l'actualité, le vendredi, on sélectionne un dessin en fonction de notre sujet du jour, c'est la bulle cartooning.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon vieux.
Assis.
Et bonjour Marguerite Caton.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Et le dessin du jour, eh bien, c'est tout simplement le drapeau du Sri Lanka.
Vous avez raison, c'est bien le drapeau du Sri Lanka que Michel Kishka, un dessinateur israélien, a choisi de représenter. Mais c'est un drapeau endeuillé, un drapeau qu'un voile funèbre vient recouvrir, l'éclat du jaune noirci sous son pinceau. Lui, l'auteur de bande dessinée, il s'est refusé à la narration du drame. Pas de foule, pas de kamikaze, pas de bombe ni d'explosion, seulement le silence du symbole vexillologique, pour dire sa peine. À gauche, un rectangle vert, il figure la minorité musulmane. Collé à lui, un rectangle orange, c'est la minorité tamoule. Ensemble, ils forment un rectangle bicolore cerné d'un bandeau jaune qui, lui, renvoie pêle-mêle aux autres minorités encore plus minoritaires, chrétiens, védas ou autres. Mais à droite de ce schéma, c'est tout autre chose. Là, un beau lion doré domine sans partage le champ écarlate. L'épée dans sa griffe royale, il étale sa superbe jusqu'aux 4 feuilles de l'arbre du Bouddha, qui dans chaque angle rappelle les vertus du glorieux peuple singhalais. Drapeau dans le drapeau, c'est l'emblème historique de l'île, celui d'avant la conquête. Et ensemble, les 3 rectangles et le bandeau forment la nation indépendante de 48. La nation de 1950, faudrait-il dire plutôt, car deux années ont été nécessaires pour décider du fragile équilibre, pour répartir la place de chacun sur le drapeau. Deux ans de discussions serrées et une commission spéciale pour être sûr que les bouddhistes cingalais auront bien cinq fois plus du champ de l'étendard que les maures musulmans ou les tamouls hindouistes. Pour les chrétiens, je vous l'ai dit, ils sont dans la marge. L'histoire du drapeau Sri Lanka est éloquente. Le risque majeur qui guette l'île, le danger qui la menace, plus terrible encore que les attentats eux-mêmes, c'est bien la dislocation de la nation et la guerre civile. C'est ce que symbolise l'ombre noire qui descend progressivement sur le lion d'or. La fragile unité sri-lankaise résistera-t-elle? Les communautés sauront-elles contenir l'onde haineuse des explosions?
Merci beaucoup Marguerite Caton. Donc le dessin, eh bien, à retrouver sur notre fil Twitter et sur la page de l'émission. Réaction à ce dessin, Gérard Chalian, vous connaissez bien le Sri Lanka. Est-ce que l'événement que vient de subir le pays pourrait être susceptible de nourrir des haines ethniques ou religieuses? Parce que on dit quand même que pour l'instant, enfin, la minorité musulmane et la minorité chrétienne vivent plutôt en harmonie et qu'en même temps, le pays est dans une situation aussi fragile sortant de 30 années de guerre civile.
Je ne pense pas que la haine entre musulmans et chrétiens va se développer dans la mesure où si elle devait exploser, ça aurait été immédiat. Je veux dire que quand il y a de la haine sur place et que vous me frappez, je vous pogromme immédiatement. Donc s'il n'y a pas ce genre de choses, c'est qu'il n'y a pas, si vous voulez, un arriéré de haine qu'on a longtemps conservé et qui d'un seul coup se déchaîne. Donc je n'y crois pas. Par contre, il y a un contentieux avec les Tamouls qui n'est pas réglé. Et ça, c'est de la faute aujourd'hui du gouvernement cingalais, du gouvernement du Sri Lanka, qui n'a rien fait, en quelque sorte, face aux demandes. Je ne parle pas de l'indépendance, c'était absurde, mais enfin, il y avait effectivement un problème, un contentieux. On les a écrasés, puis ensuite, on n'a rien fait pour résoudre le fait qu'ils étaient une minorité hier de supériorité du temps des Anglais, et aujourd'hui, ils deviennent une minorité brimée.
Marc Semo.
Mais au niveau justement de ces menaces dans l'ensemble asiatique, djihadiste, quelle est aujourd'hui, selon vous, la plus forte? Est-ce que c'est l'Afghanistan ou est-ce que c'est justement Philippines, Indonésie?
Si je me permets de vous répondre après avoir continué.
Allez-y, Philippe Migaud.
La fracture communautaire qui est le vrai enjeu de à la fois Al-Qaïda et l'État islamique, qui dit dès 2005, Al-Qaïda, le ventre mou de l'Europe, c'est le ventre mou de l'Occident, c'est l'Europe, parce qu'il y a des communautés immigrées qui vivent bien et en ont depuis longtemps. Il faut faire des attentats au nom de l'islam, de façon à ce qu'il y ait des affrontements intercommunautaires de plus en plus venants, jusqu'à la guerre civile. Quand vous avez une communauté musulmane qui se radicalise, en France, ils sont 8% de musulmans, avec 23 personnes qui votent pour Madame Le Pen, on aura des troubles identitaires. Ce qu'ils visent, ce n'est pas le terrorisme, ce n'est pas des attentats, c'est la fracture sociale pour en profiter. Je reviens sur ce que vous disiez sur la fracture sociale au Sri Lanka, et je réponds à votre question immédiatement après. En Afrique, c'est criant. Quelqu'un qui connaît le Burkina Faso depuis 20 ans, ou le Mali, savait que ces gens-là se respectaient, communautés religieuses confondues. C'est plus criant encore au Burkina Faso, ils sont 50% de chrétiens, 50% de musulmans. Les ONG islamiques, non seulement venues des pays du Golfe, mais de Turquie, arrivent, disent « Tu veux un microcrédit pour créer un emploi, voilà de l'argent, en échange, toi tu vends plus aux non-musulmans, toi ta femme va à la mosquée, ton gamin à la madrasa. » Et on a aujourd'hui une radicalisation lente qui est le poison, la première marche de l'escalier.
Et vous pensez que cette division qui grignote la société à long terme, si je comprends bien, elle pourrait avoir lieu au Sri Lanka?
J'en sais rien. Pour moi, c'est des telles minorités. Et l'un est 7%, l'autre 9%. Je veux dire, là, c'est la fenêtre de tir d'opportunité. Je réponds à votre question sur l'Asie du Sud. Je pense que le pari qui a été fait par l'État islamique, c'est le Khorasan, c'est-à-dire l'Afghanistan. Khorasan, c'est le nom de l'Afghanistan du Pakistan au Moyen-Âge. Ils ont choisi d'installer 3000 combattants qui ont recruté et qui sont une nouvelle génération. Les chefs sont des anciens des talibans afghans et ou pakistanais. Khorasan, c'est une nouvelle génération attirée par Internet.
mais ils ont pris des piles phénoménales de la part des talibans en Afghanistan. Et les Américains sont en train d'essayer de faire des accords avec les talibans pour qu'ils règlent le problème de Khorasan. Et quant au retour massif de Chinois, des Ouïghours ou d'Ouzbeks, du mouvement islamique d'Ouzbékistan avec la centrale, avec l'Asie centrale derrière, moi je suis allé en Ouzbékistan il n'y a pas longtemps, je suis allé en Chine, bah, c'est pas si massif que ça. C'est-à-dire qu'on surestime la crainte de la menace. On a un intérêt à le faire parce que ça rappelle la menace, mais il ne faut pas jouer non plus le rôle de l'adversaire.
Gérard Chalian, vous parliez tout à l'heure de la dispersion des combattants de l'État islamique une fois qu'ils ont eu perdu leur territoire en Irak et en Syrie. Aujourd'hui, c'est en Afghanistan et au Pakistan qu'il faut avoir les yeux braqués pour savoir comment se recompose cette mouvance.
C'est un foyer extrêmement important. Ceci dit, moi, j'attire votre attention sur ce que vient de dire Bigot, là, beaucoup plus important que le problème du Sri Lanka. Cette histoire de la construction de la fracture à l'intérieur des sociétés, ça c'est la lame de fond. Je veux dire, bon, vous pouvez tuer 500 types ici, 400 là, mais la lame de fond c'est une autre paire de manches. Qui travaille là-dessus depuis des années? Les Saoudiens avec le wahhabisme, les frères musulmans, la Turquie depuis maintenant une dizaine d'années. Voilà, c'est ça le travail, si vous voulez. C'est-à-dire vous préparez en quelque sorte de la haine entre groupes. Et ça, c'est quelque chose qui paye, parce que effectivement, si on vous dit l'islam c'est la solution, et qu'effectivement il n'y a pas de boulot, ou il n'y a pas de perspective, etc., ben, on marche.
Philippe Migaud.
Si vous expliquez un taleb en Afghanistan, un pashtoun, un touareg au Mali, que la démocratie c'est la panacée à ses problèmes, il sait très bien qu'il faut un siècle pour installer la démocratie et que ça va se régler tout de suite. Ce qui relie le Taleb, le Touareg et le Français, c'est que le Pashtoun a le Pashtoun Wali, que le Touareg a le code d'honneur et que nous, on a le vivre ensemble. C'est ça qui est important, c'est le contrat social. Ces gens détruisent le contrat social. Sevane nan mangade oba ena man balamin sitie hirumudunata enatek oba ena man balamin sitie hirumudunata enatek kajuga sevane nan mangade obaina man balamin sitie irumudunata enate.
Merci infiniment à tous les deux, Gérard Chalian, Philippe Migaud, de nous avoir apporté vos éclairages sur cette question. Ce matin, je rappellerai, Gérard Chalian, votre ouvrage « Terrorisme et politique » aux éditions du CNRS en 2017. Et Philippe Migaud, sur la question de l'Asie du Sud-Est, eh bien, on peut lire « L'islamisme combattant en Asie du Sud-Est » publié en 2007 par l'IRASEC et puis aussi « Le djihadisme, le comprendre pour mieux le combattre ». C'était aux éditions Plon en 2015. Yarettem sarasi urain ma veta obe pienetadi Mallirunu diyarettem sarasi urain ma veta obe pienetadi Venada ganga epitata pinanne netu ada ada obe mehi pemide.
11h53, c'est l'heure du tour du monde des idées. Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Et bonjour Brice Couturier.
Bonjour Mélanie Chalandon.
Alors aujourd'hui, il y a de la décadence dans l'air, mais ce n'est pas la première fois.
Lu dans Phoebe, une idée d'avance, le compte-rendu d'un livre paru à Oxford University Press qui donne envie de le lire. Il a pour titre « Decadence, a very short introduction ». Et c'est un titre non usurpé puisqu'il fait 160 pages. Son auteur, David Weir, est un professeur de littérature et de linguistique en retraite qui a enseigné dans une université de New York, la Cooper Union. C'est un spécialiste de Joyce, doublé d'un fin connaisseur des littératures françaises et britanniques. Et sa thèse repose sur trois postulats. Primo, C'est Rome qui a posé le modèle de toutes les décadences européennes à venir en tant que source d'inspiration. Deuxièmement, l'esthétique décadente est une réaction envers la modernité. Et c'est pourquoi l'anti-moderne, Charles Baudelaire, est le précurseur de tous les décadents. Tertiaux, une histoire de la décadence ne peut être autre chose qu'une histoire des villes, car c'est dans la confrontation avec la modernité urbaine que naît cette réaction décadentiste. C'est pourquoi le propos de David Ware se déroule au fil de 4 chapitres. Rome ou la décadence classique, Paris ou la décadence culturelle, Londres ou la décadence sociale, Vienne et Berlin ou la décadence socioculturelle. Le parcours se termine donc dans le Berlin de la République de Weimar avec ses cabarets et ses poètes expressionnistes. Dans un ultime chapitre consacré aux héritiers des mouvements décadents, on ne sera pas surpris de croiser notre grand écrivain national du moment, Michel Houellebecq. Mais il faut donc commencer par Rome, parce que ce sont les historiens romains qui ont posé les bases et les conventions de toute méditation décliniste. Pour Tacite, qui écrit beaucoup entre les lignes afin d'échapper à la censure ou pire, il est clair que le basculement de la République dans l'Empire marque le commencement de la fin. Il est né sous le règne de Néron et la plupart de ses œuvres ont été décrites sous celui de Vespasien. Et la Rome qu'il a sous les yeux avec l'exhibition de ses richesses, son luxe et son raffinement inouï lui semble tourner le dos aux mœurs austères et à l'esprit civique qui firent la puissance de la République. À ses yeux, Rome est entrée dans l'âge des excès et elle est donc condamnée au déclin. Mais le modèle de tous les décadents, c'est Pétrone. De lui, Tacite écrit « Puis, retourné aux vices ou à l'imitation calculée des vices, il fut admis à la cour parmi les favoris de prédilection. Là, il était l'arbitre du bon goût. Rien d'agréable, rien de délicat pour un prince embarrassé du choix que ce que lui avait recommandé le suffrage de Pétrone. » Tigellin fut jaloux de cette faveur, il crut avoir un rival plus habile que lui dans la science des voluptés.
Alors Brice, expliquez-nous le lien entre ces auteurs latins et le décadentisme esthétique européen de la fin du XIXe siècle.
Mélanie, souvenez-vous de Désescinte, le personnage imaginé par Huysmans, le modèle de tous les décadents fin de siècle. Il disserte, souvenez-vous, en fin connaisseur des écrivains latins. Il déteste les auteurs classiques, Cicéron, Tite Live, Sénèque, mais il apprécie les écrivains tardifs. Pétrone, Apulée, Tertullien et surtout les auteurs chrétiens de la Rome décadente. À rebours, le roman de Huysmans passa à juste titre en France pour le manifeste du mouvement décadent. Son héros est présenté comme le descendant d'une grande famille au sang épuisé. Après une jeunesse luxurieuse, il a décidé de se retirer dans une sorte d'écrin protégé de la banalité et de la vulgarité de la vie. Il y cultive, comme en serre, un mélange exaspéré de sensualisme et de spiritualisme qui manque de le rendre fou. Mais chaque détail de sa maison est pensé avec un sens esthétique et un raffinement affolant. À l'aide de croisements bizarres, il produit d'ailleurs des fleurs rares et effrayantes à l'image de son propre esprit. Le programme du décadentisme français, c'est l'art pour l'art, le refus de toute utilité sociale. Comme le dandy, son cousin, le décadent est et fuit le naturel. Et pour David Ware, l'incarnation la plus authentique du décadentisme se trouvait à Londres, avec Oscar Wilde. Avec lui, le programme atteint son plein régime. L'art est substitué à la vie, l'artificiel est proclamé supérieur au naturel, le goût l'emporte sur toute forme de moralité. On connaît moins en France la figure de Walter Pater qui exerça une vive influence sur Oscar Wilde. Il fut pourtant le grand critique d'art de la deuxième moitié du XIXe siècle anglais et Proust admirait son esthétisme. Mais c'est surtout avec Vienne et Berlin, comme le montre David Ware, que le décadentisme fraye la voie à une réelle modernité. La sécession viennoise n'est pas, comme les pré-raphaélites anglais, hantée par on ne sait quel Moyen-Âge. Si elle méprise le matérialisme bourgeois, la Vienne de la fin de l'Empire des Habsbourg traverse une apocalypse joyeuse. Quant au Berlin des années 20, on y vit avec le pressentiment d'une menace d'extinction des feux qui prendra la figure d'Adolf Hitler. Le sentiment de déclin n'est pas forcément lié à un affaiblissement politique ou économique, il constitue plutôt le pressentiment de grandes catastrophes.
Ben voilà de belles perspectives. Merci beaucoup néanmoins, Brice Couturier. Votre chronique à retrouver et à réécouter sur franceculture.fr comme d'habitude. Et dans un instant, eh bien, c'est la grande table avec Olivia Gesbert.